Tiens, par achat du secteur chez notes.
Alors.
Bon, alors, comme dans le parchat de Vayakhel, une grande partie de tout ce qui est dit là, on le connaît, ça a déjà été dit dans les instructions qui ont été données à Moshe Rabbeinu. Simplement, c'est le bilan. Certains disent qu'il y a un bilan ici de l'utilisation des matériaux, parce que les Bnei Israël, ils n'en rataient jamais une. Ils étaient rochés de Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu, il s'était mis un peu dans les poches. La question qui se pose, c'est pourquoi il y a que lui que qu'on soupçonnait. Il y a plein d'artisans, pourquoi lui on ne soupçonnait pas les autres? C'est que les autres, il y avait toujours quelqu'un qui était au-dessus d'eux. Lui, Moshe, il n'y avait personne au-dessus de lui, donc il restait que lui pour à soupçonner. Mais il faut quand même être dans un drôle d'état pour soupçonner mon cher Abino de piquer un peu dans la caisse, quoi. Alors voilà. On va essayer d'ouvrir. Non. Voilà. L'artisan, c'est donc Bessalel. Dans le passage, il est dit, Bessalel, le maté Yehuda, asa et kol asher tziva Hashem et Moshe. Bessalel a fait tout ce que Hashem avait ordonné à Moshe. Et Rashi dit, sur asher tziva oto Moshe, tout ce que Moshe lui avait ordonné, c'est pas ça qui est écrit. Il n'est pas écrit que Hachem, que Bezalel a fait ce que Moshe lui a ordonné. Marqué qu'il a fait tout ce qu'Hachem avait ordonné à Moshe. C'est-à-dire, Afilu Dvarim, Shelo Amar Lo Rabo, Iskima Da'ato, Le Ma She'Ne'emar Le Moshe B'Sinai. C'est passé une chose extraordinaire. C'est que même ce que Moshe Rabbeinu n'a pas transmis à Bezalel, mais qu'il avait reçu d'Hachem, Bezalel de lui-même, il a eu l'idée de faire les choses de cette manière-là. Il se trouve que cette manière qu'il a choisi d'utiliser, de faire, cette manière-là, c'était justement ce qui avait été prescrit par Hachem à Moshe Rabbeinu. De quoi on parle ici? C'est la fameuse histoire que Moshe, il a ordonné à Bezalel de faire d'abord les kelim, c'est-à-dire le mobilier du Mishkan, et de ne faire qu'après la tente, c'est-à-dire l'enveloppe. Et Bezalel lui a dit, mais le minhag du monde, c'est de faire le contraire. On va faire d'abord l'enveloppe, d'abord on va faire la maison, et puis ensuite on va faire le mobilier de la maison. Alors Moshe Rabbeinu lui a dit, Kar shamati mipi HaKadosh Baruch Hu. Moshe lui a dit, ah, c'est justement comme ça que j'avais entendu d'Hachem. Alors Moshe lui a dit, d'une certaine manière, en agissant ainsi, tu as accompli ton nom, c'est-à-dire tu as accompli le programme qu'il y a dans ton nom. Tu t'appelles Betzalel, et on peut lire Betzalel comme étant Betzel, tu as été à l'ombre de quel? À l'ombre du Dieu. Ivadai, car si valia Kadosh Baruchu. Asvechen asa Mishkan trila ve'achar kach akelim adkan Rashi. Bon, il y a une question ici. Qu'est-ce que Bessel a dit? Moshe lui dit quelque chose et qu'est-ce qu'il répond? Il répond Minag HaOlam. Depuis quand on oppose le Minag HaOlam à un enseignement, une exigence d'Hachem? Alors, non seulement Bezalel a répondu Minag HaOlam à Moshe qui lui disait ce qu'Hachem avait dit, mais en plus, Moshe s'est rallié à ce que Bezalel lui dit. Donc Moshe, lui, il a vraiment entendu d'Hachem, si d'après ça, il a entendu d'Hachem l'ordre Kélim d'abord et Mishkan après. Lui, Moshe, quelque part, il dit, oui, mais enfin bon, quand il parle à Bezalel, il lui dit a priori ce que Hachem lui a dit, ce qu'il pense que Hachem lui a dit, et parce que Bezalel lui oppose que c'est pas le minhag, il se rallie à ce qu'a dit Bezalel. Et après, il dit, mais Akadosh Baruch Hu m'avait dit comme ça. Alors, mais pourquoi? Donc, il y a la question sur Moshe, c'est comment c'est possible? Hachem t'a dit Mishkan d'abord, Kélim après. Toi, tu dis Kélim d'abord, Mishkan après. Et quand on t'oppose, mais c'est pas le minhag, alors oui, d'accord, bon, alors on va faire ce qu'Hachem m'a dit. C'est totalement incompréhensible. Donc, la première question, c'est pourquoi est-ce que Hachem, que Moshe Rabbeinu a dit à Betsalel, la chose dans l'ordre inverse de l'ordre qu'Hachem lui avait ordonné de le faire. Et en plus, faut aussi poser la question, dans la première paracha sur le Mishkan, c'est-à-dire là où Moshe Rabbeinu a reçu des instructions sur le Mishkan, c'était la paracha de Trouma. Hachem a dit à Moshe, la sotte est à Aaron, le kola kelim. Mais dans Trouma, d'accord, la paracha de Trouma, elle commence par les règles de collecte du matériel, des matériaux, mais ensuite la première chose, la première construction, c'est le Haron et d'autres Kélim après. Et après seulement, Hachem dit, tu vas construire le Mishkan. Donc Hachem, il a vraiment dit à Moshe, dans les instructions, Kélim d'abord et Mishkan après. Et seulement dans Parshat Ki Tissa et dans Vayakhel, que Hachem a donné l'ordre de construire le Mishkan d'abord et après le Kélim. Donc, si vous voulez, l'ordre d'Hachem, il a varié aussi. Dans Parshat Truma, il a dit Kélim d'abord, Mishkan après. Après, dans les parshiot suivantes où il reparle de la même question, il a de nouveau inversé l'ordre. Il a inversé l'ordre. Mishkan d'abord, Kélim après. Quand Moshe parle à Betsalel, il lui dit, comme dans Trouma, Betsalel, il objecte, c'est pas le minhag. Et du coup, Moshe se rallie à ce qu'a dit Betsalel, et il dit, mais c'est comme ça qu'Hachem m'avait parlé. Oh, d'abord, Hachem a parlé deux fois. Une fois, il a dit Kelim Mishkan, et une deuxième fois, il a dit Mishkan Kelim. le Midrash, et les Mefarshim du Midrash, ils parlent de cela. En réalité, la source de Rashi, c'est une Gemara dans Maseret Brachot, qui dit que Moshe a dit d'abord Kelim, puis après, et Betzalel lui a dit. Mais dans le Midrash Rabba, sur Shemot, on trouve la chose suivante. Bechash et Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe Asse Mishkan, quand Hachem a donné l'ordre à Moshe, fais-moi ce Mishkan, cette résidence, Bove Amar le Betzalel, Amar lo Mahu Mishkanazé, il a demandé, c'est quoi ce Mishkan que tu veux qu'on fasse? Amarlo, Shiashre, Akadosh Baruch Hu, Shrino, Shrinato, Betocho, ou le Lamed l'Israël Torah. Le Mishkan, il aura deux fonctions. Premièrement, il sera la résidence d'Hachem. Et deuxièmement, ce sera que la Torah sera enseignée au Bnei Israël. On ne sait même plus précisément. Puisque Hachem avait dit à Moshe que la voile viendra d'entre les Kruvim. Mais bon, mais tout ça, c'est bien dans le Mishkan. Donc, il y a deux fonctions du Mishkan. Résidence d'Hachem. Et c'est le lieu d'enseignement de la Torah. Amarle Betzalel, Vechana Torah Netuna. Betzalel a demandé, mais où est-ce que la Torah sera donnée? Amarle, Mishanu aussi met un Mishkan. Quand nous ferons le Mishkan, nous ferons le Aaron, nous ferons l'Arche de l'Alliance. Pardon? Moshe Betzalel. Amarle, alors Betzalel a dit à Moshe Rabbeinu Moshe, En kvoda shel Torah bekach. Ce n'est pas le kavod de la Torah de faire d'abord le Mishkan et après le Aaron, c'est-à-dire le lieu à partir duquel la Torah va être donnée. Et là, nous aussi, Aaron de Hakacha Mishkan. Nous, on va faire d'abord le Aaron et après, on va faire le Mishkan. Après ce Midrash-là, tout est à l'envers. C'est Betzalel qui propose de faire d'abord le Aaron. Le Fichach Zacha, parce que Betzalel a revendiqué le kavod du Aaron, pour cette raison, Zacha chez Aaron Nikra Al-Shmo, pour ça, Betzalel a mérité que le Aaron soit présenté comme l'œuvre de Betzalel. C'est marqué, Vayas Betzalel et Aaron. Betzalel a fait le Aaron. Jusque-là, c'est le Midrash. Après, on voit que c'est exactement dans le Midrash le contraire de ce que dit la Gemara. La Gemara, qui est la source de Rashi, qui dit que c'est Bezalel qu'il faut qu'il dise à Moshe Rabbeinu d'abord le Mishkan et après seulement le Aaron. Et notre Midrash, il dit l'ordre contraire. Et l'argument de Bezalel, C'est justement Kelim chez nous aussi, l'effort à nous animarnis. Si tu me dis, toi, tu me dis dans la Gemara, les Kelim que je vais faire, où est-ce que je vais les stocker? Je vais les mettre où? Et il répond, Minagaolam, on fait d'abord Baït et après Kelim. Donc toutes ces phrases-là, elles ne sont pas mises dans le. Tout ça, on n'en parle pas dans le Midrash. Donc voilà. Dans la parasha de Truma, Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu de fabriquer les kélim, de fabriquer le mobilier en premier. Comme on a dit, d'abord le Aaron, la menorah, etc. Et après seulement, fabriquer la tente, c'est-à-dire la résidence elle-même, le Mishkan. Pourquoi? Parce que dans Trouma, on parle du projet général. Le projet général, c'était quoi? Vasuli Migdash, Veshachanti Betocham. Or, qu'est-ce qui donne son nom au Mishkan? Ce sont les Kélim. Parce que s'il n'y a pas sans le mobilier, la tente en question, c'est une tente ordinaire. Bon, on a construit une tente, c'est tout. Ce n'est pas un Mishkan, ce n'est pas une résidence. Bon, c'est comme si quand vous louez un appartement meublé ou pas meublé, quoi. On peut résider seulement quand il y a des meubles. Donc, Moshe Rabbeinu dit à Betsalel, le projet divin. Là-dessus, Betsalel lui dit, le minhag du monde, c'est de faire d'abord la maison, et après, on fait le mobilier, on construit le mobilier. Et pourquoi est-ce que le minhag du monde, c'est de faire comme cela, on va dire, parce que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé d'abord le monde, Bara Shamaim Vaaretz, il a créé le monde, le ciel et la terre, c'est-à-dire la maison, Bara et Kolma, Baolam, et ensuite seulement, il a créé tout ce qui va exister dans le monde. Et par conséquent, le Mishkan, qui est un mini-monde, il va être une espèce de monde en miniature, et donc on va le construire sur le mode de construction du vrai monde. C'est-à-dire l'ordre sera le même que celui de la construction du monde. La maison d'abord et le mobilier après. Et c'est ce que dit. C'est ce que dit Moshe Rabbeinu à Betsalel, Kar shamati mi pi Akadosh Baruch Hu. C'est ce que j'avais entendu de la bouche d'Hachem. Nous, dans cette phrase, on peut comprendre que mon cher Rabbeinu, c'est lui qui parle, et il reconnaît, enfin, il se rallie à la thèse de Bezalel. Mais ça, c'est assez difficile parce que immédiatement après cela, le passage dit Amar lo Moshe Betzel Kelaïta. Moshe lui dit, tu étais à l'ombre d'Hachem. C'est machma que jusque-là, ce n'était pas Moshe qui parlait. Puisque Chazal disent Amar lo Moshe. Sinon, ce n'est pas nécessaire de dire Amar lo Moshe, c'était déjà Moshe qui parlait. Moshe est en train de parler, on nous dit ce qu'il a dit en plus. On n'a pas besoin de mentionner encore une fois Moshe. Donc on a l'impression un peu que Betsalel, après que Moshe Rabbeinu lui ait dit ce qu'il pensait qu'il fallait faire, alors Betsalel a ajouté à Moshe, Kar shamati mipi akadosh baruchu. C'est Bezalel qui dit, j'ai entendu comme ça de la bouche d'Hachem. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Bezalel, il avait ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Il était inspiré. Et où est-ce qu'il a entendu ça? C'est que après que Hachem ait dit à Moshe Rabbeinu, Vasu li migdash veshachanti betocham, que kol asher ani mare otcha et tavnit hamishkan ve tavnit kol kelav vechen ta'asu. Bon, il a entendu. D'abord Mishkan, le kol kelav vechen ta'asu. Et c'est comme ça que vous allez faire. C'est-à-dire, en ce qui concerne la Asiya, Kentaasu, quand il faudra passer à l'acte et faire ce dont ils sont en train de parler de façon théorique, quand il faudra passer à l'acte, voilà l'ordre qu'il faudra observer. Mishkan d'abord, et le Kélim après. Et c'est ça que Bessalel a entendu. Il a entendu que dans la construction effective, il faudra cet ordre-là. Et c'est à cela que Moshe Rabbeinu lui dit, je vois que tu étais à l'ombre d'Hachem. C'est-à-dire, bien qu'Hachem ne t'ait pas parlé à toi, mais à moi. Mais toi, qui vis à l'ombre d'Hachem, tu as entendu parler Hachem. Par conséquent, Moshe Rabbeinu n'a jamais changé quoi que ce soit par rapport à ce qu'Hachem lui avait dit. Quand il a dit à Bezalel ce qu'Hachem lui a dit, il lui a pas dit quel serait l'ordre de construction du Mishkan. Il lui a dit quel est le projet. Et quand on présente un projet, on dit l'essentiel. Pourquoi est-ce que c'est, voilà, ce sera un Mishkan? En quoi est-ce que c'est un Mishkan? C'est grâce au Kélim. Donc il faut parler d'abord des Kélim et après de la tente. Parce que ça, c'est le projet. Mais après, il continue. On a continué, le verset dit. Que chol asher ani mare otcha et tavnit hamishkan ve tavnit kol kelav vechen ta'asu. Le verset d'après qui parle Comment est-ce que vous allez vraiment faire? Le verset qui vient après, bien sûr, le premier. Donc, si vous voulez, il faut lire. Le départ, c'est je te présente un projet et je te dis dans quel, comment est-ce qu'on va le construire. Alors, dans le projet, on dit l'essentiel. L'essentiel, c'est l'Aaron. Ça qui va, l'Aaron et le reste du mobilier qui va faire que la tente qu'on va construire, elle sera d'emblée une tente résidentielle. Pas n'importe quelle tente dans laquelle on pourrait mettre aussi, ça peut être aussi mettre des animaux à l'abri. Et donc, c'est pas avec des raisonnements, des svarot, tiens, le minhag, c'est comme si, etc. C'est pas ça qui fait changer la vie. Moshe Rabbeinu parle à des niveaux différents. Enfin, Hachem parle plutôt à des niveaux différents. Puisque Bezalel savait que quand on allait construire, et quand il parle directement après avec Moshe, c'est au moment de la construction. Dans notre paracha, là, nous, on parle de la construction, on ne parle pas du projet. Donc, dans Vayakhel, où il vient déjà ordonner à Bezalel construire, Vayakhel, Pekoudé, c'est la réalisation du projet. Alors, il commence effectivement par Mishkan et après les Kélim. Alors maintenant, on va revenir un peu sur le Midrash. Le Midrash de Vayakhel qui a l'air d'aller dans le sens contraire de tout ce qu'on a dit. Jusqu'à présent, pourquoi il sont tombés d'accord, justement. Non, à un moment, ça dépend qui a parlé, justement. Ce que dire que c'est Betsalel qui a parlé, bon, et que Moshe ne parle qu'après, juste pour lui dire tu étais à l'ombre, bon, ça veut dire qu'en fait, ils étaient toujours d'accord. Mais le Midrash, il n'a pas l'air d'être d'accord. Jusqu'à présent, on a parlé du Mishkan et du mobilier. Mais le Midrash, lui, en fait, il parle de la lumière, voilà, et du Aaron. Et pas des autres kélim. Parle pas du reste du mobilier. C'est là-dessus qu'il y a une discussion pour le Midrash. Il y a une discussion entre Moshe et Betsalel. Comment est-ce qu'il faut entendre ça? Le Midrash dans Vayakhel qui ramène la chose suivante. Sha'al Rabbi Shimon ben Yohatzadak et Rabbi Shmuel ben Nachman. Enfin, ils sont tous les deux, Rabbi Shimon et Rabbi Shmuel, donc il y en a un qui pose une question à l'autre. Amarlo, il l'a dit. Bishvin she shamati alecha. Bal Agada, étant donné que j'ai entendu à ton sujet que tu es un maître dans la Agada, dans le traitement, il y a donc deux parties dans la Gemara, etc. Il y a une partie Agada, une partie récit, donc, et une partie halakhique. J'ai entendu que tu es un maître dans la partie agadique. Alors dis-moi, L'Echam Divreta Ora. D'où la lumière a-t-elle été créée? D'où elle vient la lumière? Amarlo. Il demande, Hachem a ordonné l'ordre qu'il y ait la lumière, mais comment ça s'est fait? Amarlo, nit atefa kadosh baruchu ke salma. Hachem s'est enveloppé dans une espèce de grande robe. Vivi kaolam mizivo, merosho vatsopo. Et il a éclairé, en fait, le monde du début, enfin, d'un bout à l'autre. Il s'est marqué Ote Or Kasalma. Il a enveloppé le monde de lumière comme avec une robe, en fait. Donc, il a enveloppé le monde de lumière. Une enveloppe. Ça, c'est un petit morceau du Midrash. Et ça, ce morceau de Midrash, il est un peu étonnant, parce que la question est étrange. C'est quoi, Mehechan Nivre Taora? D'où est-ce que la lumière a été créée? C'est un passouk clairement qui dit, Elohim a dit, Yehi Or. Vahi Or. Et donc, Mishe bara kol haolam, bara gam et ora. Celui qui a créé le monde entier, il a aussi créé la lumière. Tu n'as pas demandé d'où le monde a été créé. Le monde a été créé par Elohim. Eh bien, le monde est aussi, la terre, la lumière aussi est créée par Elohim. Pour donner un peu d'explication, comme vous savez, la Torah elle dit, la Gemara, Chazal pardon, disent que Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé avec 10 paroles. Mais 10 paroles, ça veut dire il y a 10 fois. La Gemara, elle a l'air de dire qu'il y a 10 fois le mot Vayomer, comme c'est marqué Vayomer Hashem Elokim Yehi Or, Vayomer Elokim ceci, Vayomer Elokim, 10 fois. Alors la Gemara, dans un Masechet Rosh Hashanah, la Gemara, elle dit, mais ça marche pas, parce qu'il n'y a pas 10 fois Vayomer. C'est écrit seulement 9 fois. Et la Gemara donne comme réponse, Bereshit nami ma'amaru. Le mot Bereshit, c'est aussi considéré comme une parole. C'est comme si c'était Vayomer. Ok, mais si c'est la même chose, alors. Pourquoi on a écrit Bereshit? Pourquoi on n'a pas écrit Vayomer comme on l'a écrit 9 fois par la suite? Tant qu'à faire, vous pouvez l'écrire 10 fois. Alors il faut dire que Vayomer, ça n'est possible, Vayomer, ça n'est possible que si on s'adresse à quelqu'un ou à quelque chose. Comme c'est le cas dans les 9 paroles. Vayomer tatché haaretz. C'est-à-dire, ça s'adresse à la terre et on ordonne à la terre qu'elle fabrique du gazon. Vayomer Elohim, yishrutsu hamaim. Ou alors, Elohim s'adresse à l'eau, il demande à l'eau, il ordonne alors à l'eau, pardon, de pulluler, de fabriquer donc, pullulement. Il y a un interlocuteur, si vous voulez. Mais dans Bereshit, il n'y a pas d'interlocuteur. On ne pouvait pas dire Vayomer, à qui s'adresserait le Vayomer sur Bara Elohim? Il n'y a encore rien de créé. Donc on ne peut pas dire Vayomer. Mais on peut dire Bereshit. Et c'est ça la question de ce Rav Shimon ben Yehatzdak. Si dans la lumière, concernant la lumière, on a dit Vayomer, ça veut dire que Hachem s'est tourné vers quelqu'un. Quelqu'un qui va faire en sorte qu'il y ait de la lumière. Or, ça, c'est pas possible. Parce que la lumière, elle vient directement d'Hachem. Il est la lumière infinie. C'est un rayonnement direct de lui-même. C'est marqué Beorcha. Dirait or, dans ta lumière, on verra de la lumière. Et même si tu dis que Shamaim va'aretz ont déjà été créés, quand Hachem dit Vayomer Yehi or, c'est après la création du ciel et de la terre. Mais le ciel et la terre, ils n'ont pas la possibilité de créer de la lumière. Parce que la lumière est plus spirituelle, si on peut parler comme ça, que le ciel et la terre. C'est encore vrai même aujourd'hui. La lumière, même si on dit que c'est des photons, c'est plus spirituel que les atomes ordinaires. Donc on est bien obligé de dire que Mehachem Nivra, la lumière, elle a été créée par Hachem. Alors du coup, si c'est Hachem qui a créé la lumière, alors pourquoi c'est marqué Vayomer? À qui il s'adresse si c'est lui-même qui le fait? Il se parle à lui-même? Alors son collègue, il lui répond. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'existait pas au moment où Hachem a ordonné qu'il y ait la lumière, il n'y avait pas de créature, rien dans la création, qui soit capable de produire la lumière. Mais malgré tout, la lumière n'est pas une partie d'Hachem. C'est-à-dire que bien que quand on parle d'Hachem, on parle d'une lumière infinie, ou bien on dise Beorcha nirei or, c'est-à-dire la lumière, c'est ta lumière. Hachem Yitbarach, malgré cela, il est bien entendu bien au-dessus de toute définition. Sauf que dans le langage, il n'y a rien de plus spirituel que la lumière. Donc quand on voulait dire, comme on ne peut pas dire quelque chose de plus haut, de plus spirituel, alors on va dire que c'est la lumière, mais c'est un abus de langage. C'est-à-dire, il n'y a pas de, on ne peut pas dire qu'Hachem est lumière. Mais comment est-ce qu'on fait pour dire qu'Hachem est plus spirituel que la lumière? Il n'y a pas de mot pour le dire. Alors on va dire que la lumière, on va la présenter comme si la lumière était un vêtement d'Hachem. Ou Hachem se revêt d'un vêtement, donc c'est pas lui, mais c'est un vêtement. Comme on dit, ôté or kasalma. Il se revêt de lumière comme d'une robe, comme d'une enveloppe, si vous voulez. Et c'est à cette enveloppe-là hein, qu'Elohim s'adresse en disant Yehi or. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait à ce vêtement, répands-toi dans le monde. C'est pour ça qu'il y a une discussion entre les Tanaïm pour savoir qu'est-ce qui a été créé en premier, si elle est la terre ou bien la lumière, comme dit Rashi dans le récit. Maintenant, si on revient à notre sujet, en fait, il faut faire la maison, il faut faire l'enveloppe. D'abord, le Mishkan, et après seulement le mobilier. Comme dans l'opération création du monde. Enfin, Hachem crée le monde, il crée l'enveloppe. Et ensuite, il crée le contenu. Mais la lumière, qui n'est pas seulement quelque chose qui éclaire, mais la lumière, en fait, c'est toute l'énergie. C'est toute la Torah. Et rien ne peut exister de matériel sans cette lumière, sans cette énergie de base. Et par conséquent, même le soleil, même le ciel et la terre n'ont pas été créés concrètement avant la lumière. Comme Rashi ou comme le Ramban, comme ils disent qu'au départ, Akadosh Baruch Hu a créé ce Koach Haïouli, Sheudak, Sheurak Bekoach. C'est ce Koach Haïouli, bon, c'est quelque chose qui est potentiel. Donc, on peut très bien, nous, dans notre langage d'aujourd'hui, on dirait, Hachem a créé d'abord de l'énergie. Ensuite, il a demandé à Einstein comment on fait, puis Einstein lui a donné la formule de créer des choses. Alors, c'est E égale MC carré. Non, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis? Le? Oui. Yvon? Mais premièrement, ils ne comprennent rien de la création elle-même. Ils définissent un certain moment où quelque chose va apparaître, mais à partir de quoi? Quel était l'état d'avant le Big Bang, si on peut parler comme ça? Même, tout le monde. Le Big Bang, ce n'est pas la création du monde. Justement, ceux qui se rapprochent, c'est ceux qui disent que on peut absolument rien dire du tout d'un phénomène de création parce qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Ça n'a pas de sens. En vérité, même nous non plus, on ne sait pas de quoi on parle. Ça veut dire quoi, quand même? Le mot créer, il a été fait pour les hommes. C'est un verbe qui sert à toutes sortes de, dans toutes sortes de contextes, comme tous les verbes qui se respectent. Bon, c'est fait pour le langage, c'est dans le langage des hommes. C'est pas fait pour dire quoi que ce soit d'Hachem. Sur Hachem, on peut rien dire du tout. Alors, il y a des scientifiques qui prennent conscience de ce qu'on peut rien dire du tout, et ça les rapproche d'Hachem. Je pense que cette façon de se rapprocher de Hachem, il y en a d'autres qui vont parler d'un processus ou je sais pas quoi, mais à la limite, ne sait pas ce que ça veut dire créer pour Hachem. Comme on voit ici que quand on veut parler d'une création par Hachem, eh bien, on a un problème. Est-ce qu'il s'adresse à quelque chose? Et à quoi il pourrait bien s'adresser quand il veut créer de la lumière? Et là, le Midrash, il est plein d'inventions, quoi. Il a inventé que Hachem s'adresse à un vêtement il s'est mis un vêtement, puis ensuite il a dit à son vêtement, bah, répands-toi dans le monde. C'est une image magnifique. Bon. Il faut une image. Ça n'est qu'une image. Ça commence par être une image. C'est le moment où on parle d'un vêtement d'Hachem. On parle d'un vêtement d'Hachem, mais vous connaissez, il y a un vêtement d'Hachem qui est très célèbre, très connu. Hein? C'est? Oui, le mizmor le cantique du Yom Shishi, Hachem se revêt d'orgueil. Bon, l'orgueil aussi, c'est un vêtement. Bon, il y a une ligne qui s'appelle orgueil. Une ligne de vêtements. Hein. On voit que on a eu besoin de parler de quelque chose qui n'est pas Hachem, mais qui n'est pas complètement étranger, c'est la notion de vêtement. Le vêtement, c'est d'une. On voit dans certaines halakhot, par exemple, dans les problèmes de Touma et Tahara, que le vêtement, c'est une espèce de deuxième peau. Bon, et donc, on voit très bien que, d'une certaine façon, il y a la peau de l'homme, de l'être humain, il y a le vêtement. Et il y a une troisième peau qui est quoi? C'est la maison. La maison, c'est la troisième peau. On voit que ces trois peaux-là peuvent être affectées de la touma, de l'impureté. L'une d'entre elles est affectée par la lashon hara, etc. D'autres par la radinerie, etc. Ce sont des peaux différentes, mais des peaux différentes de l'être humain. Donc maintenant, si on continue l'image, bon, si un vêtement peut être un vêtement, si on veut dire quelque chose d'Hachem, on pourrait parler de son vêtement, mais aussi on peut parler de ce Mishkan. Du coup, le Mishkan est aussi une forme de vêtement. Oui. Ve'al-Korach, on est obligé de dire que Betzalel, il dit que même si on dit que la maison doit être construite en premier, mais ça ne peut pas être construit sans le Aaron. On ne peut pas penser la maison sans le Aaron. Alors, pourquoi? Et le Aaron, il représente la lumière, justement, puisqu'il représente la Torah, contient la Torah, et la Torah, c'est la lumière. C'est pour ça que il a construit d'abord, on parle d'abord de la construction du Aaron, et Moshe Rabbeinu aussi, on est d'accord. C'est le Midrash. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup à dire à ce sujet. Et voilà, ça c'est une présentation. On va regarder un deuxième sujet. Y a un passouk qui dit Une rochette à tnoufa, Shivim Kikar, Ve Alpaim Ve Arba Meot Shekel, Vayaz Ba et Adne Betach Oel Moed, Ve Tamizbeach à nos rochettes. ואת מחבר הנחושת אשר לו ואת כל כלי המזבח. C'est un pasouk en chapitre Lamed Chet, chapitre 38, verset 29-30. Donc, dans le verset 29, on nous rochette à Tnoufa, Shivim Kikar, Ve Alpaim, Ve Arba Meot Shekel, Shekel. Ça veut dire le cuivre. On est ici dans la liste des matériaux, des quantités de matériaux qui ont été utilisés. Donc, c'est à la page 568. Verset 29, donc c'est le troisième verset. Vous l'avez?568. C'est l'anglais? Ah, alors c'est chapitre 38, verset 29. Et le cuivre? Donc, le cuivre qui a été fourni quand Hachem a demandé, Moshe a demandé sur l'ordre d'Hachem qu'on produise les matériaux dont on aurait besoin, et celui qui a été, le cuivre qui a été offert, c'était de 70 kikars, c'est des pains de cuivre, ils ont traduit talent, et 2400 shekels. Et avec ce cuivre, on a fait les socles de l'entrée du Mishkan. On a fait aussi, il y a un misbéach qui est en cuivre, la grille de cuivre sur le misbéach pour que ça brûle pas, quoi. Et tous les ustensiles du misbéach qui étaient en cuivre. Et les socles de la cour aussi, tout autour, les socles de la porte de la cour, tous les piquets du tabernacle et tous les piquets de la cour tout autour. Bon, ça c'est le rapport sur l'utilisation du cuivre. La Torah nous dit que, elle nous dit qu'est-ce qu'on a fait du cuivre? Ce qui est surprenant, c'est que la Torah ne cite pas du tout le cuivre du Kiyor, Vet Kano. Il y avait ce fameux, cette bassine-là. Ça aussi, c'était fait en cuivre. Plus bas, c'est dans le chapitre 39, là-bas, on dira « Et misbach anechoshet, vet mirbar anechoshet, asher lo, vet badav, vet kolkelav, vet akiyor, vet kano. » Là-bas, on va mentionner Kiyor et Kano. Et à Mizbeach, et à Mirbar. Ça, on met l'accent qu'ils ont été faits en cuivre. Dans le Kiyor, on ne, et le Kano, on n'est pas, on met pas l'accent sur le fait qu'ils ont été faits en cuivre, mais on le sait. Rachid, dans la paracha de Vayakhel, sur le passouk qui dit Vaya setakior nechoshet, vetkano nechoshet, donc dans Vayakhel, on dit clairement, le kior était en cuivre, le kano était en cuivre, le marot atzovot. Mais d'où venait ce cuivre? Ce cuivre vient, comme vous savez, il vient des miroirs. Les miroirs que les femmes utilisaient en Égypte. Asher tsavu petach ohel moed. Et par conséquent, ça répond un peu à la question. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les kélim, les ustensiles, en cuivre d'un côté et le kior d'un autre côté. Parce que les ustensiles, ils ont été fabriqués avec le cuivre qui a été donné par les Bnei Israël. Et on a travaillé ce cuivre. On en a fait les kélim, on l'a. Par contre, le kior et le kano, ça n'a pas été fait avec le cuivre qui a été travaillé, mais il était fait avec les marottes de Nechoshet, avec les miroirs de cuivre. Les miroirs étaient simplement, c'était du cuivre poli. C'est là-dedans que c'est avec ça que ces femmes vérifiaient leur maquillage, etc., pour séduire leur mari, pour se rendre plus désirable pour des maris qui étaient complètement épuisés, qui avaient baissé les bras, et les femmes voulaient absolument développer le clan Israël malgré la situation terrible dans laquelle ils étaient pendant l'esclavage égyptien. Et ces ustensiles de séduction, en quelque sorte. Même Moshe Rabbeinu avait eu du mal à admettre qu'on allait récupérer ça pour quelque chose de très élevé. Mais quand même, ça sert à la séduction. Hachem l'a dit, mais tu t'as pas compris, quoi. T'as pas compris combien c'était important. Elles ont donc donné ça pour qu'on en fasse le Quillor. Et du coup, on n'a pas eu besoin du même travail parce que c'était déjà travaillé, ce cuivre. C'est pour ça que quand on fait le compte du cuivre, on compte le cuivre donné par les Bnei Israël. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Et puis à part ça, on nous dit, c'est vrai que le quillor et le canot sont faits en cuivre, mais c'est pas avec ce cuivre-là. C'est un cuivre particulier, celui des miroirs des femmes. Pardon?
Vous prenez le cuivre dans le
Les autres, il a fallu coller du cuivre pour le former des kélims, etc. Là, on a là, on... Rashi raconte que Moshe Rabbeinu a hésité à accepter ce cadeau que les femmes ont voulu faire. Vous voyez pas très bien comment on pouvait faire le kélim pour le Mishkan, pour la résidence d'Hachem, avec ces miroirs qui étaient des miroirs de séduction. Alors, Akadosh lui a dit, accepte. Ki elu chavivin alai min hakol. Ça, pour moi, c'est bien plus précieux que tout le reste. Shaliedehen et midu anashim tzvakot, enfin, Bnei Israël, mais Mitzrayim. Les armées, donc, c'est avec ça qu'on a fabriqué le peuple juif. Venaaseh, et on va fabriquer le Kior, a dit Hachem à Moshe, avec ça. Le Rav Ibn Ezra, dans ce verset-là, il explique pourquoi on a accepté, pourquoi on en a fait le Kior. Justement. Il dit, Shayoub Israël Nashim Ovdot Hashem, il y avait des femmes qui servaient Hashem, Shisaru Mitavot Zeaolam, qui en fait étaient complètement détachées de la recherche des jouissances de ce monde, Vinatnu Marotehen Nedava. Et donc leur miroir, elles l'ont donné en cadeau, qui est laem tsorechod, les tiafot. Ibn Ezra dit, elles l'ont donné, mais on n'a plus l'usage de ça. Elles étaient détachées des jouissances de ce monde. Oui, c'est Ibn Ezra, c'est pas Rashi. Non, mais Ibn Ezra, il dit, pourquoi elles l'ont donné? Parce qu'elles n'avaient plus besoin. Alors que, et donc, qu'est-ce qu'il y a? T'as complété? Le Sforno, sur place aussi, il dit, Votan anashim, ma'asu inyane, Tarchitehen, Vigdishumaotehen leorot, Et le Sforno, il dit, les femmes, elles étaient dégoûtées de ces questions physiques, quoi. Et elles ont plus besoin de tout ça, donc elles l'ont donné. A priori, les commentaires du Mezra et de Sforno sont évidemment en contradiction avec Rashi, a priori en tout cas. Oui, mais ça veut dire que elles ont seulement donné quelque chose dont elles n'auraient plus l'usage. Donc, c'était pas au titre de, donc, l'important, c'est bon, on a rien à battre, alors pourquoi pas, au lieu de le vendre ou quoi, enfin, je sais pas qui, hein. Oui, mais bon, si on n'en a plus besoin, pourquoi pas? On demandait des matériaux. On savait qu'il faut du cuivre. Voilà, on a du cuivre, on n'en a rien à faire de ce cuivre. Voilà. Ça, c'est Sforno et on va voir. Donc, a priori, c'est contraire à Rachi, puisque Hachem, d'après Rachi, il a dit à Moshe, accepte, parce que ça m'est plus précieux que tout le reste. Si, Sforno italien. Espagnol. Donc, à la limite, pour Sforno et Ibn Ezra, c'est pas parce que c'était chose dont on avait besoin, c'est parce que ça montrait un détachement des jouissances de ce monde-ci, que ça mérite d'être utilisé dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, vous comprenez? C'est pas simplement, non, comme je disais avant, on n'en a rien à faire, c'est pas comme ça. C'est, étant donné que ça correspond à une élévation, si on veut, c'est de se couper, considérer que les jouissances de ce monde par rapport à quelque chose de spirituel, c'est sans commune mesure, en fait. Pour ça qu'ils ont, c'est ça qui leur donne leur valeur. Faut aussi comprendre si leur explication ne va pas dans le sens de la takana de Ezra. Il y a une takana qui date de Ezra, donc à l'époque de où les Bnei Israël sont retournés en Eretz Israël après Pourim, quoi. Ezra, il a fait une takana que les marchands ambulants avaient le droit de circuler, d'aller de ville en ville, parce que ils vendaient justement des babioles et des bijoux pour les femmes. Colis fichet, vas-y. OK. Des colis fichet. Ça n'a rien à voir avec le coffre-fort fichet, non? D'accord. OK. D'accord. Bon. Alors, bon, donc des colifichets, des chéloïdes pour que leurs femmes restent désirables par leur mari, pour leur mari. Bon, c'est pas évident parce que ça mettait ces hommes en rapport avec des femmes qui souvent étaient toutes seules à la maison, etc., quand ils venaient, etc. Donc, il y avait toutes sortes de problèmes. Mais c'est une Takana d'Ezra qui a dit, il faut le faire, même si effectivement, c'est pas complètement positif, mais c'est fondamentalement positif parce que ça permet que les relations, en tout cas entre les hommes et les femmes, ne soient pas dérangées par le manque de colifichet. Dans le Midrash Rabbah, au début du Midrash Rabbah sur Shemot, que chez Akadosh Baruch Hu Kara le Moshe, Hachem a appelé Moshe. Quand est-ce qu'il l'a appelé? Au Sneh, au buisson ardent, la première fois. Et Moshe Rabbeinu a répondu, Hineni. Et Chazal ont expliqué que quand il répond Ineni, ça veut toujours dire je suis prêt à tout, complètement disponible. Donc le Chazal l'ont interprété Ineni la Malchut, Ineni la Kehuna. Je suis prêt à jouer le rôle de roi, je suis prêt à jouer le rôle de Kohen Gadol. Et ce midrash, il est un peu étonnant, puisque Moshe va refuser pendant 7 jours d'accepter la nomination qu'Hachem est en train de lui donner. Et le midrash, il a l'air de présenter comme si Moshe voulait la royauté et la kehuna. Alors, l'explication qu'il faut donner, enfin qu'on peut donner, c'est même le fait que cette chose très importante c'est-à-dire que il faut vouloir de grandes choses, vouloir faire de grandes choses, sans quoi ça n'avancera pas pour le service d'Hachem. Il faut avoir un esprit d'entreprise pour pouvoir servir Hachem. Donc là, l'humilité de Moshe ne contredit pas son désir de roi, de royauté, de Kehuna. Le problème, c'est seulement de clarifier qu'est-ce qui se passe vraiment en profondeur chez lui. Qu'est-ce qu'il veut vraiment, vers quoi il tend. La malchoute pourrait être au service du peuple, au service du peuple d'Hachem. C'est ça le grand problème, c'est que les rois, eux, ils s'imaginent qu'ils sont de droit divin, donc le peuple est à leur service. Un roi d'Israël, c'est un roi qui est au service du peuple. Être au service du peuple d'Hachem, c'est une grande chose. Et de faire en sorte que la volonté d'Hachem soit réalisée par le peuple, c'est une très grande chose. Il n'y a pas plus haut, en fait. Alors, c'est vrai que avec ça, automatiquement, il y a du kavod, il y a de la splendeur, etc., qui accompagne le statut de roi ou de Kohen Gadol. Si la personne, ce qu'elle recherche, c'est simplement le kavod et la splendeur, etc., alors, bon, ça va pas faire avancer la Avodat Hashem. Au contraire. Mais comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'on veut vraiment? C'est difficile. On peut se tromper sur soi-même. Le seul moyen de savoir vraiment ce qu'on veut, c'est d'être capable de refuser. Si son désir est vraiment sincère, alors, peu lui importe que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. La personne veut qu'il y ait quelqu'un qui fasse en sorte que le peuple obéisse à la volonté d'Hachem. Si c'est lui, c'est lui. Mais si c'est quelqu'un d'autre, ben ça lui est aussi important. Pas nécessairement par lui que ça doit passer. Oui. C'est ça que Moshe fait. Au fond de lui-même, il veut effectivement servir Hachem par la royauté, par la Kehouna, s'il veut, mais il refuse de toutes ses forces et dit, Shnachna biyatishlach, envoie quelqu'un d'autre. Ça ne doit pas être moi obligatoirement, ça peut être quelqu'un d'autre. Que le Ramban explique. Kolmi shetishlach yehadif alai. Moi, je serais même plus content encore. D'ailleurs, plus content si tu envoyais quelqu'un d'autre. Si finalement on lui donne les choses, alors il sera le bon shaliach. À la rigueur, je préférerais même que tu envoies quelqu'un d'autre. Non, mais la question de Charlie, si j'ai bien compris, c'est qui est-ce qui est capable de faire ça? Très juste, ouais. En ce qui concerne les marottes, les miroirs qu'elles utilisaient pour se parer, etc., mon cher Rabbeinu, il avait un doute, parce qu'il se peut très bien que, en fait, à ce moment-là, c'était leur plaisir qu'elles recherchaient. Et par conséquent, on ne peut pas en faire un clip pour le Mishkan. Mais Hachem lui a dit, accepte, parce que ça, c'est pour moi, c'est plus cher que tout le reste. C'est comme si Hachem témoignait sur elle que leurs kavanot, leurs intentions à ces femmes, quand elles se paraient, c'était vraiment le Shem Shamayim. C'était vraiment pour le peuple, pour assurer la pérennité du peuple. Et donc, c'est comme ça qu'elles ont mis au monde, effectivement. Grâce à ça, ils ont mis au monde le clan Israël. Et la preuve que leur intention était le Shem Shamayim, c'est que quand c'est nécessaire, elles sont prêtes à abandonner tout ça, ces miroirs. Si on est capable d'abandonner tout cela, pour la Kedusha, alors c'est ça qui justifie qu'Hachem dise, pour moi c'est la chose la plus précieuse pour moi. Pourquoi plus que les autres choses? Quand le peuple a donné, c'était aussi avec générosité, non? C'est marqué aussi, on prendra seulement de ceux qui sont poussés par leur cœur à donner. Donc c'est aussi un chamaï. Pourquoi Hachem dit que la démarche de ces femmes-là, elle est supérieure à la démarche de tous les donateurs? Donc il faut dire que si comme tout le clan d'Israël a amené à donner des choses, le Shem Shamayim, en bezé kol kach chidush. Que les gens aient donné, étant donné qu'il y a eu un mouvement général, tout le klal a donné très généreusement, alors tout le monde a donné généreusement. Bon, c'est très bien, c'est parfait. Mais ces miroirs qui sont là aussi pour exciter le Yetzer Hara aussi, il fallait bien. Et là, Hachem témoigne que leurs intentions étaient tout à fait pures, en fait, tout à fait élevées. C'est pour ça que finalement, l'explication de Rashi et les explications de Ibn Ezra et de Sforno, elles ne sont pas vraiment contradictoires. C'est qu'elles se complètent. Seul celui qui est capable, ou celle qui est capable, de renoncer à ses colifichets, si, et même les regarder négativement, quand c'est nécessaire, elles sont capables de les utiliser, le Shem Shamayim. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout qu'elles n'en avaient plus besoin, c'est que c'est les femmes qui, a priori, ne faisaient pas, n'en avaient pas besoin. Il y a eu un moment où c'était le seul moyen de réveiller les hommes un peu à ce moment-là pour assurer que le peuple d'Israël allait survivre dans ces conditions-là. Donc elles ont été capables de mobiliser quelque chose qui n'avait pas de, enfin, qui était même quelque chose de négatif à leurs yeux. Hachem dit, ça pour moi, ça c'est très précieux. Je suis sûr. Ce qu'elle faisait, c'était l'Ishma, puisque elle l'a mobilisé, ils ont mobilisé quelque chose que par ailleurs elle n'utilisait pas, et qu'elle éventuellement même elle méprisait. Voilà. Les deux sujets qu'on a traités ici, je les ai pris dans un sujet qui a été écrit par Rav Gabriel Itach. C'était un Rav qui a enseigné ici au Rinci, puis ensuite à Strasbourg. Et qui maintenant on est en Israël.